Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo a invité la Belgique à renforcer le partenariat contre le terrorisme. L'Indonésie devait collaborer avec le Panama. Le troc peut accroître le commerce entre l'Indonésie et le Venezuela. Le Conseil de l'Union européenne a apprécié la condition démocratique en Indonésie. Selon la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, CEPA sera profitable l'Indonésie. L'Indonésie demande le soutien au Qatar pour diriger de nouveau l'OPEP. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président Joko Widodo, lors de sa rencontre avec le roi de Belgique, Philippe, à Royal Palace jeudi, a invité la Belgique à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. L'équipe de la communication présidentielle, M. Ari Dwi Payana, dans une déclaration à La Haye, a affirmé vendredi qu'à cette réunion, le président Joko Widodo, au nom du gouvernement et du peuple indonésien, a exprimé ses condoléances au peuple de Royaume Belge au Bruxelles pour un attentat à la bombe qui a fait de nombreuses victimes, y compris deux citoyens indonésiens qui ont subi des blessures graves. Selon Ari Dwi Payana, le président Joko Widodo a souligné que l'Indonésie a condamné fermement cette attaque. Concernant les questions bilatérales, le président a déclaré que la visite de la princesse Astrid en mars 2016 avec la délégation commerciale et la visite du roi Philippe suivie par 150 hommes d'affaires montrent l'engagement de la Belgique pour améliorer et renforcer les relations bilatérales avec l'Indonésie. L'Indonésie a également le même engagement d'intensifier les bonnes relations avec la Belgique, qui se concentre sur trois domaines, à savoir l'économie socio-culturelle et le dialogue interreligieux. Le chef d'état-major de la présidence, M. Teten Mas Duki, a déclaré que l'Indonésie devait collaborer avec le Panama dans les gestions et le suivi liés à des données dans les documents du Panama ou Panama Papers. Teten Mas Duki a souligné qu'il devait y avoir un accord entre l'Indonésie et le Panama. Il a réitéré l'importance de la loi sur le pardon fiscal ou l'amnistie fiscale ainsi que la nécessité d'un accord de coopération entre l'Indonésie et le Panama dans certaines choses importantes. Cette coopération comprend l'échange d'informations multilatérales et bilatérales pour que les données détaillées de Panama Papers puissent être suivies. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Venezuela, M. Muhammad Lutfi Witung, a déclaré que la coopération dans le commerce entre l'Indonésie et le Venezuela, au milieu des difficultés économiques qui ont frappé les pays d'Amérique latine, pouvait être améliorée par le troc. L'ambassadeur Muhammad Lutfi Witung a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas beaucoup de coopération dans le secteur économique en raison des obstacles de facteurs économiques qui sont difficiles au Venezuela. Mais le Venezuela est un grand pays producteur de pétrole majeur, donc l'Indonésie peut faire le troc. Le Venezuela connaît actuellement des difficultés économiques en raison de la baisse des prix mondiaux du pétrole. Et le pétrole est la principale source de revenus des pays latins. À cette fin, selon l'OTFI, l'Indonésie peut profiter de la condition du prix du pétrole à bas prix et d'accroître le commerce avec le Venezuela en offrant le troc parmi les produits locaux de l'Indonésie avec l'huile en provenance du Venezuela. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, lors d'une réunion avec le président Joko Widodo à Bruxelles en Belgique le jeudi, a salué les conditions de la démocratie, des droits de l'homme et de la tolérance en Indonésie. L'équipe de la communication présidentielle, M. Ari Dwi Payana, dans sa déclaration à Bruxelles, a affirmé jeudi que la coopération de l'envoi de la coopération des chefs religieux visait à combler les valeurs de tolérance continuera d'être poursuivie. Cependant, le président Joko Widodo a transmis que l'Indonésie était un laboratoire vivant où l'islam, la démocratie et la tolérance peuvent coexister. Le président du Conseil européen a bien noté les efforts de l'exemption de visa pour les citoyens de l'Indonésie. Au moment où la situation de l'Union européenne est plus propice, ces efforts doivent être poursuivis. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré jeudi à Bruxelles que la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique global de l'Union européenne et l'Indonésie bénéficiera l'Indonésie. Dans l'histoire du commerce, l'Indonésie est toujours en surplus avec l'Europe, de sorte que le programme Accord de partenariat économique global est souhaitable, le commerce puisse plus augmenter et bénéfique pour les deux parties. Selon Mme Retno Marsudi, la visite du président Joko Widodo en Belgique est utilisée pour négocier des plans de commerce entre l'Indonésie et l'Union européenne. L'Indonésie est le premier pays de l'Asie du Sud-Est qui a le partenariat et l'accord de coopération avec l'Union européenne. Ceci est un signal fort envoyé par l'Indonésie à la communauté internationale en ce qui concerne la compétitivité et l'économie indonésienne ouverte. Le gouverneur indonésien de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, Widiawan Prawira Atmaja, demande au Qatar de soutenir l'Indonésie afin de diriger l'OPEP. Il était dit par Widiawan Prawira Atmaja jeudi au Qatar. La visite de Widiawan au Qatar vise à accompagner le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales de l'Indonésie, M. Sudirman Said, pour assister à la réunion de l'OPEP. Auparavant, la réunion de l'OPEP dirigée par le ministre de l'Énergie et de l'Industrie du Qatar, Dr. Mohammed bin Saleh Al-Sada, n'a pas réussi à atteindre un accord. La réunion impliquant 18 pays producteurs de pétrole, y compris le pays non l'OPEP, la Russie, n'a pas réussi à stabiliser l'output ou le niveau de production de janvier jusqu'à octobre 2016. La prochaine réunion sera organisée en juin. En tant que secrétaire général par intérim de l'OPEP, le ministre Al-Sada soutient fermement l'Indonésie pour diriger l'OPEP lors de la prochaine élection. Le Qatar soutient également l'Indonésie à devenir le membre de l'OPEP à nouveau au début de 2016. Le sérieusement du Qatar reflète dans la déclaration a été déclaré lors de la réception de la visite des autres fonctionnaires indonésiens au Qatar. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Sixième longtemps, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Le conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ainsi que son impact pour les négociations à Doha au Qatar ». La réunion entre les pays producteurs principaux de pétrole à Doha, au Qatar, n'a pas réussi à parvenir à un accord sur le niveau de production et la fixation des prix plus bas du pétrole. Les observateurs ont évalué l'échec a été causé par des attitudes et les intérêts différents des deux pays, à savoir l'Iran et l'Arabie Saoudite. La réunion de Doha vise à discuter du niveau de production et le prix du pétrole brut. L'Arabie Saoudite et l'Iran, depuis le début, ont des intérêts différents dans des conditions qui seront négociées. Pour l'Iran, la montée des niveaux de production et des prix soutiendra fortement le niveau de son économie. Depuis longtemps, le gouvernement de Téhéran a exprimé à plusieurs reprises son intention d'augmenter les niveaux de production au niveau de pré-sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies avant de considérer tout le resserrement pour stabiliser les prix. Un certain nombre de pays producteurs de pétrole est d'accord avec l'attitude de Téhéran, mais Riyad agit autrement. En fait, augmenter l'exportation de pétrole est l'une des récompenses de la surveillance serrée des activités nucléaires de l'Iran. C'est une partie principale de l'accord de Téhéran avec les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU en juillet de l'année dernière. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas d'accord. En fait, ce pays agit autrement. Avant la réunion à Doha au Qatar, Riyad avait déjà laissé entendre n'acceptera pas un resserrement de la production de pétrole sous quelque forme. Avec une telle position initiale, l'Arabie Saoudite assure que l'accord du pétrole échouera. L'Arabie Saoudite préfère le prix du pétrole plus faible et le revenu du pétrole continue à être faible à tous les producteurs de pétrole, y compris pour ce pays lui-même de ne pas se parler par rapport à parvenir à un accord de production qui augmentera les recettes de l'Iran. On pourrait faire valoir qu'actuellement, le pétrole n'est plus seulement un négoce de matières premières, mais est devenu une partie d'une stratégie politique ou la diplomatie. Les deux, Téhéran et Riyad, ont fait le pétrole comme une partie de la stratégie en considérant géopolitique de la zone du Golfe, ainsi que leur influence à d'autres pays, en particulier au Moyen-Orient. De telles conditions auraient un impact aussi pour d'autres pays en dehors de la zone du Golfe, en particulier qui comptent encore sur le pétrole comme le fondement de l'économie nationale, y compris l'Indonésie. Serviteur, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, l'édition 22 avril. On va commencer le 22 avril, jour de la Terre est célébré au monde. Earth Day, ou jour de la Terre, est célébré chaque année le 22 avril. Cette célébration vise à accroître la sensibilisation du public aux problèmes environnementaux qui existent. Jour de la Terre a été célébré première fois le 22 avril 1970 aux États-Unis. À cette époque, des millions de personnes, en particulier les élèves des écoles et des étudiantes, se sont réunis dans un défilé, un qui contient les programmes d'éducation environnementale. Le sénateur Gaylord Nelson du Wisconsin est à l'origine de la première journée de la Terre le 22 avril et se termine sur une réponse positive par les Nations Unies. Mais le terme effectivement « jour de la Terre » a été exprimé première fois par un militant de la paix, John McConnell, au 20 mars 1960. Le jour où le soleil est directement au-dessous de l'équateur qui est suivant appelé l'équinoxe du mars. Au fil du temps, le jour de la Terre est devenu populaire parmi les peuples du monde. Actuellement, le jour de la Terre, le 22 avril, a été célébré dans plus de 190 pays. On chance le 22 avril 1994. la mort du 37e président des États-Unis, Richard Nixon. Richard Milos Nixon était le 36e vice-président des États-Unis et président des États-Unis entre 1969 à 1974. Il est le premier président américain qui a démissionné de sa fonction, sa démission en réponse au scandale du Watergate à la Maison-Blanche. Le président Nixon a également annoncé la fin de la guerre du Vietnam qui a fait des milliers de soldats le 23 janvier 1973. L'annonce a été indirectement devenir une reconnaissance américaine qu'ils ont perdu la guerre en Chine de l'Asie du Sud-Est. Le 22 avril 1994, Nixon est mort à cause de sa maladie et a été enterré à côté de sa femme Pat Nixon dans la cour de la bibliothèque présidentielle de Richard. On termine le 22 avril 1997, fin de la prise d'otage au Pérou. L'assaut des soldats péruviens met fin à une prise d'otage de 126 jours en tuant tous les preneurs d'otages. La résidence de l'ambassade du Japon à Lima, Pérou, était occupée par des guérillos réclamant la libération de 500 de leurs militants et le changement de la politique économique du gouvernement. Le président Alberto Fujimori a refusé de céder face au MRTA, ou le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Ses amis, c'était notre histoire d'aujourd'hui, ce soir. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs, excusez bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre. L'Indonésie et la Grande-Bretagne ont accordé la coopération dans divers domaines. L'Indonésie et la Grande-Bretagne ont convenu l'accord de coopération dans divers domaines lors de la visite du président Joko Widodo en Grande-Bretagne mardi. L'équipe de la communication du président Ari Dwipayana a affirmé mercredi à Londres que lors de la réunion, le président Joko Widodo et le premier ministre britannique David Cameron ont accordé et signé certains accords de coopération dans divers domaines. Les accords de coopération signés par les deux pays sont une forme de réalisation acquise lors de la visite officielle du président Joko Widodo en Grande-Bretagne. Selon Dwipayana, il y avait 5 mémorandums d'entente signés par les deux pays, à savoir le protocole d'entente des industries créatives, le protocole d'entente de l'enseignement supérieur, le protocole d'entente de l'information et des expériences dans l'événement sportif mondial, et la disposition de la coopération marine et de la pêche, et le protocole d'entente entre PT Garuda Airbus et Rolls-Royce. Ari Dwipayana expliquait que l'accord de la coopération dans le domaine des industries créatives donne l'occasion à la coopération plus étroite dans l'intensification des capacités et du développement de l'expertise à travers l'éducation et la formation pour les industries créatives. En outre, ce protocole d'entente est la base du développement du modèle de financement de l'économie créative, y compris les sources de financement et de l'investissement. Ce protocole d'entente souligne l'importance du développement du réseau des villes créatives. Le gouvernement indonésien et la Grande-Bretagne ont accordé le mémorandum d'entente de la coopération de l'éducation supérieure qui pourrait aider l'intensification du développement de l'éducation à chaque pays, outre d'encourager le développement du programme bilatéral entre les établissements d'enseignement supérieur des deux pays avec le principe du bénéfice mutuel et de fournir des bourses pour les étudiants des deux pays. Concernant cette coopération, le chef de la Chambre de commerce et d'industrie Kadin l'Indonésie, Hossan Perkasa Ruslani, après la signature du mémorandum d'entente à Londres, mardi, était prêt de réaliser l'investissement extérieur de la Grande-Bretagne. Selon lui, le potentiel de l'investissement extérieur britannique en Indonésie est très grand, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'économie numérique, la pharmacie et l'agriculture. Kadin, comme partenaire du gouvernement dans les domaines économiques, commerciaux et industriels, continue à encourager les flux d'investissement dans le pays. De plus, avant de l'accord de partenariat économique global, CEPA, avec l'Union européenne, qui devrait être terminé en 2018, Rosan a dit qu'il soutenait pleinement l'ordre du jour du président Joko Widodo dans le cadre d'une visite dans plusieurs pays en Europe comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas. Ceci permet d'accroître les liens économiques entre l'Indonésie et les pays dans la zone du continent bleu. Pendant ce temps, le chef adjoint de Kadin chargé des relations internationales, Shinta Wijaya Kamdani, a déclaré que l'Union européenne était le partenaire commercial très important pour l'Indonésie et vice-versa, dans laquelle l'Indonésie est maintenant devenue un partenaire important pour l'Union européenne. L'Union européenne est l'une des plus grandes économies du monde, tandis que l'Indonésie est la plus grande économie en ASEAN. Selon Shinta, l'Union européenne est aussi l'un des plus grands pays destinataires des exportations de l'Indonésie. C'est pourquoi il y a encore beaucoup de potentiel à développer pour augmenter le commerce bilatéral et l'investissement entre les deux parties. Sagittaire, c'était la mise au point pour ce soir. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Le président Joko Widodo, lors de sa rencontre avec le roi de Belgique, Philippe, à Royal Palace jeudi, a invité la Belgique à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. L'équipe de la communication présidentielle, M. Ari Dwi Payana, dans une déclaration à La Haye, a affirmé vendredi qu'à cette réunion, le président Joko Widodo, au nom du gouvernement et du peuple indonésien, a exprimé ses condoléances au peuple de Royaume Belge au Bruxelles pour un attentat à la bombe qui a fait de nombreuses victimes, y compris deux citoyens indonésiens qui ont subi des blessures graves. Selon Ari Dwi Payana, le président Joko Widodo a souligné que l'Indonésie a condamné fermement cette attaque. Concernant les questions bilatérales, le président a déclaré que la visite de la princesse Astrid en mars 2016 avec la délégation commerciale et la visite du roi Philippe suivie par 150 hommes d'affaires montrent l'engagement de la Belgique pour améliorer et renforcer les relations bilatérales avec l'Indonésie. L'Indonésie a également le même engagement d'intensifier les bonnes relations avec la Belgique qui se concentre sur trois domaines, à savoir l'économie socio-culturelle et le dialogue interreligieux. Le chef d'état-major de la présidence, M. Teten Mas Duki, a déclaré que l'Indonésie devait collaborer avec le Panama dans les gestions et le suivi lié à des données dans les documents du Panama ou Panama Papers. Teten Mas Duki a souligné qu'il devait y avoir un accord entre l'Indonésie et le Panama. Il a réitéré l'importance de la loi sur le pardon fiscal ou l'amnistie fiscale ainsi que la nécessité d'un accord de coopération entre l'Indonésie et le Panama dans certaines choses importantes. Cette coopération comprend l'échange d'informations multilatérales et bilatérales pour que les données détaillées de Panama Papers puissent être suivies. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Venezuela, M. Mohamed Lutfi Witung, a déclaré que la coopération dans le commerce entre l'Indonésie et le Venezuela, au milieu des difficultés économiques qui ont frappé les pays d'Amérique latine, pouvait être améliorée par le troc. L'ambassadeur Mohamed Lutfi Witung a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas beaucoup de coopération dans le secteur économique en raison des obstacles de facteurs économiques qui sont difficiles au Venezuela. Mais le Venezuela est un grand pays producteur de pétrole majeur, donc l'Indonésie peut faire le troc. Le Venezuela connaît actuellement des difficultés économiques en raison de la baisse des prix mondiaux du pétrole. et le pétrole est la principale source de revenus des pays latins. À cette fin, selon l'OTFI, l'Indonésie peut profiter de la condition du prix du pétrole à bas prix et d'accroître le commerce avec le Venezuela en offrant le troc parmi les produits locaux de l'Indonésie avec l'huile en provenance du Venezuela. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, lors d'une réunion avec le président Joko Widodo à Bruxelles en Belgique le jeudi, a salué les conditions de la démocratie, des droits de l'homme et de la tolérance en Indonésie. L'équipe de la communication présidentielle, M. Ari Dwi Payana, dans sa déclaration à Bruxelles, a affirmé jeudi que la coopération de l'envoi de la coopération des chefs religieux visait à combler les valeurs de tolérance continuera d'être poursuivie. Cependant, le président Joko Widodo a transmis que l'Indonésie était un laboratoire vivant où l'islam, la démocratie et la tolérance peuvent coexister. Le président du Conseil européen a bien noté les efforts de l'exemption de visa pour les citoyens de l'Indonésie. Au moment où la situation de l'Union européenne est plus propice, ces efforts doivent être poursuivis. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré jeudi à Bruxelles que la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique global de l'Union européenne et l'Indonésie bénéficiera l'Indonésie. Dans l'histoire du commerce, l'Indonésie est toujours en surplus avec l'Europe, de sorte que le programme Accord de partenariat économique global est souhaitable, le commerce puisse plus augmenter et bénéfique pour les deux parties. Selon Mme Retno Marsudi, la visite du président Joko Widodo en Belgique est utilisée pour négocier des plans de commerce entre l'Indonésie et l'Union européenne. L'Indonésie est le premier pays de l'Asie du Sud-Est qui a le partenariat et l'accord de coopération avec l'Union européenne. Ceci est un signal fort envoyé par l'Indonésie à la communauté internationale en ce qui concerne la compétitivité et l'économie indonésienne ouverte. Le gouverneur indonésien de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, Widiawan Prawira Atmaja, demande au Qatar de soutenir l'Indonésie afin de diriger l'OPEP. Il a été dit par Widiawan Prawira Atmaja jeudi au Qatar. La visite de Widiawan au Qatar vise à accompagner le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales de l'Indonésie, M. Sudirman Said, pour assister à la réunion de l'OPEP. Auparavant, la réunion de l'OPEP dirigée par le ministre de l'Énergie et de l'Industrie du Qatar, Dr. Mohamed bin Saleh Al-Sada, n'a pas réussi à atteindre un accord. La réunion impliquant 18 pays producteurs de pétrole, y compris le pays non l'OPEP, la Russie, n'a pas réussi à stabiliser l'output ou le niveau de production de janvier jusqu'à octobre 2016. La prochaine réunion sera organisée en juin. En tant que secrétaire général par intérim de l'OPEP, le ministre Al-Sada soutient fermement l'Indonésie pour diriger l'OPEP lors de la prochaine élection. Le Qatar soutient également l'Indonésie à devenir le membre de l'OPEP à nouveau au début de 2016. Le sérieusement du Qatar reflète dans la déclaration a été déclaré lors de la réception de la visite des autres fonctionnaires indonésiens au Qatar. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.radioreplique.org. www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, je vais vous inviter à aventurer à Lanjak, dans la province de Kalimantan occidentale. Si vous aimez l'aventure dans la nature, le charme et la richesse des forêts tropicales seraient intéressants de mettre dans l'ordre du jour du prochain programme touristique. Pour être en mesure de découvrir et d'apprécier la richesse des parcs nationaux dans les différentes régions en Indonésie, vous avez certainement besoin des informations sur les hébergements pour rester et se reposer pendant l'exploration. Pour cette raison, la présence de la ville de Passerelle pour une destination majeure dans la région a un rôle très important. Lanjak est la capitale du district de Batang Lupar, l'une des régions à la Kapuas Hulu. La ville de Lanjak est la porte pour entrer dans le parc national du lac Sentarum à Kalimantan Occidental. Cette ville est stratégique, située dans le nord, bordée par la Malaisie. Elle est gérée comme une ville touristique parce qu'elle présente des avantages et le potentiel touristique. Comme par exemple la colline de Lanjak ou Genting Lanjak est l'une des plus hautes collines à Lanjak, célébrée comme le meilleur endroit pour voir les sites du lac Sentarum de Desu, en plus de la colline Tekenang. La ville de Lanjak est située à environ 900 km de Pontianak, la capitale de l'ouest de Kalimantan. Pour y aller, à partir de Pontianak, vous pouvez prendre l'autobus pendant environ 16 heures ou environ 2 heures par avion vers Putu Sibau. Et ensuite, il faut continuer en utilisant le minibus Badau ou Lanjak environ 5 heures. La distance entre Putu Sibau à Lanjak environ 23 km. En tant que ville touristique, on peut trouver beaucoup des hôtels Jasmine dans la ville de Lanjak. En plus de séjour à l'hôtel, vous pouvez rester dans les maisons des habitants qui sont louées aux touristes. Vous pouvez séjourner sur le bateau Bandung en explorant le parc national du lac Sentarum. Dans ce bateau, on peut rester ou bien faire la cuisine et d'autres activités quotidiennes. Avec la longueur d'environ 20 jusqu'à 25 mètres, et de 10 jusqu'à 12 mètres de large, les bateaux en bois étant donnés en toit qui ressemble à une maison flottante. La ville de Lanjak est située dans une zone assez isolée et la vie de la société est encore relativement traditionnelle. On peut goûter le moment de vie proche de la nature. Le menu principal de la plupart des gens de Kalimantan qui dépendent de la nature, du lac et des rivières sont des poissons d'eau douce. Ils sont habituellement obtenus à partir du lac de Sentarum ou de la rivière Kapuas, qui devient l'élément vital des communautés à Kalimantan occidentale. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Un programme sur les informations actuelles.
Serviteurs, bonsoir. Voici l'Église en couleur. La Journée mondiale de la Terre est une journée de l'observation sur la Terre célébrée à l'échelle internationale le 20 avril chaque année. Cet événement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Le jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson. Cet événement vise à accroître l'appréciation et la conscience humaine à la planète habitée par des êtres humains d'aujourd'hui, c'est la Terre. Exactement aujourd'hui, le 20 avril, l'Indonésie commémore également le jour de la Terre. De nombreuses régions du pays sont commémorées avec diverses manières, comme réalisées par la région de Jimbaran, la région de Bandung, Bali. Jimbaran organise le festival de Jimbaran ou Jimba Fest qui est devenu le thème du programme de ce soir. Serviteurs, le festival de Jimbaran ou Jimba Fest aura lieu le 23 avril à Alun-Alun ou une grande place de Jimbaran pour commémorer le jour de la Terre. Ce festival annuel sera participé par les quartiers traditionnels de Jimbaran, les académiciens, les communautés environnementales à Jimbaran et Seka Teruna ou le groupe de jeunes, les hommes d'affaires touristiques à Jimbaran et la communauté locale. Au festival annuel actuel, vous regarderez divers événements ayant pour thème respectueux de l'environnement comme la concurrence verte, selfie verte ou concert verte outre le bazar. Les participants seront invités également à faire garden tour, à savoir les activités de voyage pour voir les activités des jardins horticoles et les activités de la culture des plantes hydroponiques. Selon Putu Agung Prianta, initiateur du festival Jimbaran 2016, ce festival s'efforce à unir les divers éléments qui existent à Jimbaran dans une unité, ainsi que pour éduquer le public sur l'importance de préserver et de protéger l'environnement. En outre, le festival de Jimbaran veut aussi exprimer quelques messages, à savoir vers l'éducation, la culture, l'art et le plaisir. Serviteur, du côté vert, aider à faire succès des programmes propres et écologiques faits par le gouvernement provincial de Bali. En termes d'éducation, de manière indirecte, ce festival invite le public à préserver et protéger notre environnement. Du côté artistique, ce festival invite la communauté locale à maintenir toujours la sagesse locale et la culture balinaise et renforcer Menyama Braya ou concept idéal de la vie de socialisation à Bali. De la part d'amusement, faire de cet événement comme une activité amusante à suivre tous les milieux. Dans le festival de Jimbaran cette année, on se tiendra également la course de recyclage pour la catégorie de l'école primaire de la classe 4 et 5. Le concours de création fabriqué à partir de vieux bouteilles en plastique et de vieux journaux. Le discours en anglais à propos de jour de la Terre et selfie de photos sur le thème action d'aimer l'environnement. Dans cette activité, l'utilisation des matières plastiques évitées ou réduites, les participants apportent leurs propres bouteilles de boissons. Pour le marché à faible coût, toutes les plateformes ne doivent pas utiliser de plastique. Donc, dans la présentation de chaque pont en utilisant d'autres matériaux qui sont respectueux de l'environnement. Une figure de la communauté de Jimbaran, Sukam Tawayen, a affirmé que les habitants ont salué la mise en œuvre du festival de Jimbaran 2016. Selon lui, beaucoup de potentiels locaux qui pourraient être soulevés par l'intermédiaire de ce festival, tels que le potentiel agricole, les arts au potentiel culinaire local. Chers auditeurs, c'est terminé encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Je vous souhaite que vous restiez fidèles à l'écoute de nos émissions, surtout le magazine de musique. Et vous pouvez entendre nos émissions via émetteur à Angkor sur 9525 kHz. Ou bien le streaming audio sur www.voico.id ou via application RRI Play sur votre gadget ou portable. Et pour cette édition, on vous présente le rythme de dangdut avec la chanteuse indonésienne Nunki Cynthia Sari. Bon, chers amis, comme le début de notre rencontre, allez, écoutez d'abord la chanson de Nunki Cynthia Sari intitulée Liku Liku. Bonne écoute. Chers amis, Nungki Sintiasari, elle est née à Surabaya le 24 décembre 1982. Elle commence sa carrière comme chanteuse de dangdut. Et sa voix au rythme de dangdut est juste parce qu'elle a du succès dans la musique de dangdut. Plus tard, beaucoup d'œuvres arrivent à elle. Eh bien, elle a choix comme présentatrice dans un programme de Bukan Empat Mata avec Tukul Arwana, à la chaîne privée, bien sûr. Bon, chers amis, avant de continuer notre rencontre, écoutez encore la chanson de Cynthia intitulée Lautan Madu. On écoute. Chers fidèles amis, bien qu'elle soit célèbre comme chanteuse et présentatrice, Cynthia n'oublie pas l'éducation. Après avoir passé son diplôme au sujet management et 12e cycle de communication, en 2013, Cynthia continue ses études pour le doctorat à la faculté psychologue à l'Université de Pajajaran, Bandung. Oui, elle pense que l'éducation est importante pour sa vie et sa carrière. D'autres, Nunki Cynthia Sari, aiment bien faire la charité aux pauvres. Bon, chers fidèles amis, c'était le magazine de musique avec la chanteuse Nunki Cynthia Sari. Et avant de terminer, écoute d'abord la dernière chanson de Cynthia intitulée « Cinta dan Air Mata ». Bonne écoute et au revoir.
c'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.